Dans cet épisode du quatrième mur, il sera moins question de mur que de planche. Rien à voir avec le bricolage toutefois, puisque c'est une comédienne, chanteuse et metteuse en scène de théâtre que nous recevons aujourd'hui. Marina Pangos, bonsoir.
Bonsoir Robin.
Alors Marina, tu as une riche carrière, donc comme je le disais, sur les planches, au théâtre. Donc sur les planches, sur scène ou en coulisses, un petit peu devant la caméra aussi, on aura l'occasion de parler un petit peu de tout ça. D'abord, peut-être qu'on peut commencer par le commencement. Toi, quelle a été ta formation ? Est-ce que tu as commencé ? Est-ce que c'est le théâtre qui t'a emmené vers le chant ? Ou est-ce que c'est le chant qui t'a emmené vers le théâtre ?
Yes. Moi, j'ai commencé par le chant. J'ai commencé par le chant. Chant choral, classique, un petit parcours assez académique, hein, conservatoire, etc. Mais avec toujours cette envie de faire du théâtre. Mais quand j'étais plus jeune, je ne sais pas pourquoi, ma mère me disait que le théâtre, il valait mieux commencer quand on avait un peu de vécu. Donc j'étais trop jeune, donc du théâtre, si je voulais en faire, c'était plus tard. Et donc j'ai commencé par le chant, mais avec cette envie de faire du théâtre. Et donc cette envie m'a amenée à Paris, après une fois que j'avais fait mes études classiques. J'ai pris mes petits clics, mes petits claques et je suis montée à Paris pour faire du théâtre. Où là, j'ai fait une première formation de théâtre, donc que je n'ai pas fini d'ailleurs. Et ce qui est assez amusant, c'est que le jour de mon audition pour rentrer dans cette école de théâtre, j'ai trouvé sur le sol un article de journal d'une école de comédie musicale.
Waouh ! Ouais. Le hasard fait bien les choses.
Ouais, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, je me suis dit, bon, t'es là pour le théâtre, donc tu vas faire le théâtre. Et puis, dans cette école de théâtre, il y avait des cours de chant, des cours de danse. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment l'idée d'allier les trois. Et donc, au bout d'un an et demi, j'ai décidé de passer l'audition pour cette école de comédie musicale que j'ai intégrée, que je n'ai pas finie non plus. Et assez rapidement, je me suis retrouvée sur les planches dans diverses productions de comédie musicale, du coup.
Ok, alors on aura l'occasion d'en parler. Effectivement, ce que tu dis est intéressant, puisque la comédie musicale au théâtre, au cinéma aussi, mais surtout au théâtre, ça a cette particularité qu'il faut savoir jouer, danser et chanter en même temps. Parfois, les Américains, pour ça, parce qu'à Broadway, c'est une industrie à part entière, il y a un terme que j'aime bien, ils disent « triple threat », triple
oui,
menace,
oui,
peut-être tu connais, mais c'est quand même très particulier. C'est-à-dire que, comme tu disais, il ne suffit pas de savoir jouer, il ne suffit pas de savoir danser, ou de savoir... Enfin, il faut faire tout ça en même temps. Alors, humainement, et même avec... Comment est-ce que c'est possible ? C'est très dur au début ?
Je sais pas comment dire, je pense que à chaque personne il y a son propre ressenti, sa propre impression par rapport à ça. Je crois, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis pour le coup c'est vraiment, ça fait partie de leur culture, ils
Bien
sont
sûr.
Percés là-dedans, ils sont juste incroyables dans les trois disciplines, c'est hallucinant. En France on n'a pas encore ce niveau-là, mais du coup de ma petite expérience je me rends compte qu'on vient tous avec un premier bagage, soit le chant, soit le jeu, soit la danse, et après du coup selon ce premier bagage-là c'est plus ou moins difficile d'allier les trois. Personnellement, donc je ne peux parler que pour moi, mais personnellement ça n'a pas été difficile d'allier les trois, ça s'est fait de façon assez naturelle et de façon assez surprenante aussi, parce que moi à la base je danse pas beaucoup, je n'ai pas de formation de danseuse. J'avais commencé la danse quand j'étais plus jeune, mais suite à un accident, j'ai dû arrêter. Ouais. Et donc, je ne suis pas arrivée dans ce milieu en étant danseuse. Et pour le coup, on me propose constamment des rôles où il faut danser, presque plus que jouer ou quoi. Et donc, c'est là où ce métier, je trouve qu'il est génial. C'est qu'on se retrouve propulsé sur des challenges en fait, assez incroyables. Ouais. Et on doit se dépasser et apprendre en fait, à développer nos trois disciplines. Mais c'est vrai que ça fait peur de prime abord quand on reçoit le livret, le texte, ou la chose qu'on a entre les mains, on se dit waouh, comment je vais faire déjà pour avaler tout ce texte, pour chanter en même temps. Parfois, effectivement, c'est les trois en même temps, chanter, jouer, danser, et c'est des tableaux, parfois des numéros qui sont très costauds, qui demandent beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est la magie de ce métier, c'est qu'on répète, et en fait, jour après jour, le corps imprègne les informations au fur et à mesure. Donc, en fait, finalement, quand on est sur scène, je crois qu'il y a beaucoup plus de plaisir que vraiment de se dire waouh, comment je fais ça, quoi.
Et toi, tu disais au début, quand tu as commencé la comédie musicale, c'était pas quelque chose qui te paraissait évident, comme tu disais, contrairement à comment dire, aux États-Unis où c'est Broadway, c'est vraiment quelque chose à part entière. En France, ça reste assez marginal ou en tout cas assez méconnu. Il y a depuis quelques années des adaptations de comédie musicale, notamment au Théâtre Mogador, des choses comme ça.
Ouais.
Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est tu connaissais pas forcément, ou ça te faisait un petit peu rêver quand même, ou tu regardais des comédies musicales de ouais. cinéma et tu te disais, ah, c'est quand même pas mal ce qu'ils font, ils ont de la chance ou...
Bah, clairement, j'ai grandi avec les comédies musicales de ouais. l'âge d'or. Ouais, et puis, j'ai vraiment grandi avec les vieux films hollywoodiens.
Okay.
Donc oui, ça m'a toujours fait rêver, mais pour moi, ça appartenait au cinéma. Mmh. Je ne me suis jamais dit dans ma vie, ah, je vais faire de la comédie musicale sur scène. Je me suis dit, si un jour vraiment mon rêve se réalise... truc de fou, ce serait de jouer dans un film musical, voilà, un truc à gros budget, un truc de dingue. J'ai vraiment grandi avec ces films-là, mais j'ai découvert un peu, bah, malgré, je sais pas, au petit hasard, quoi, au petit bonheur de la vie, que ça se faisait sur scène. Et j'ai découvert ça en même temps que j'ai découvert donc, cette fameuse école de comédie musicale et tout ça, quoi.
Et c'est cette voie-là que tu as suivie.
Ouais, ouais. Parmi c'est cette voie-là, en tout cas, qui s'est ouais. ouverte à moi, ouais, et pour mon plus grand bonheur pour l'instant.
Ok. Justement, dans les pièces, les comédies musicales dans lesquelles tu as joué pour l'instant, c'est pour beaucoup des adaptations de films, ou en tout cas d'histoires qui sont assez connues. Et tu as joué des rôles iconiques comme Esmeralda ou Cendrillon. Donc j'imagine que pour toi, je ne sais pas, mais pour pas mal de petites filles, c'est peut-être un rêve qui se réalise. Est-ce que c'est difficile ou au contraire, c'est un challenge qui est intéressant de s'approprier ces personnages-là qui sont très connus, avec lesquels tout le monde a un lien, j'allais dire presque affectif. Est-ce que c'est difficile de renouveler ces rôles-là, ou est-ce que justement c'est ton défi à toi de faire comme si on les connaissait pas?
Ouais, c'est une très bonne question.
D'abord, est-ce que c'était un rêve de petite fille pour toi?
Non, c'était pas un rêve de petite fille pour moi. Par contre, oui, quand la proposition tombe, on se dit waouh. Ok, c'est quand même emblématique, quoi. Et ouais. effectivement, pour beaucoup de petites filles ou de petits garçons, en tout cas d'enfants, ça représente quelque chose de costaud, quoi.
Bien sûr.
Et la magie dans ces moments-là, c'est de constater que peu importe, en fait, la représentation que nous, on offre, il y a un imaginaire collectif qui est tellement fort que les enfants, quand ils te regardent après ou quand ils te rencontrent ou quand juste tu as la chance de croiser leur regard pendant que tu joues, tu vois que dans leurs yeux, pour eux, tu es cette Esmeralda ou cette Cendrillon ou cette, ce personnage qui fait partie de leur imaginaire. Et c'est ça la magie du truc, en fait. C'est qu'on ne doit pas forcément rentrer exactement dans cette représentation qu'on a ou qu'on a reçue par Disney, par etc. Il y a plein de versions possibles. Et peu importe la version qu'on propose ou que le metteur en scène va nous demander de proposer, l'enfant, alors là, lui, il voit son rêve, en fait. Hein. Ouais, c'est okay. assez magique.
Mais ce qui est aussi particulier, puisqu'on parle de théâtre, ce qui est très important, enfin, ce qui est une composante très importante, c'est les décors et les costumes. Et quand, justement, toi-même, tu es sur scène, tu es dans les décors, quand tu enfiles le costume de Cendrillon ou d'Esmeralda, c'est quand même pas rien. Tu te dis à un moment, waouh, j'imagine.
C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Et puis, c'est sans les décors, sans les costumes, sans les lumières, sans toutes les personnes qui sont au plateau avec nous, l'histoire ne prend pas vie, le personnage ne prend pas vie. Il n'y a aucun sens qui se fait. Donc, c'est clair que le costume participe énormément à la sensation qu'on peut avoir. Quand on arrive dans notre loge, qu'on l'enfile, qu'on se retrouve maquillé, coiffé, costumé, qu'on se dit ok, là je suis Esmeralda ou là je suis Cendrillon, il y a quelque chose qui se passe, quoi, c'est clair.
Tu te rends compte de ce que ça
représente.
Et
ouais.
parmi des rôles que tu as interprétés, il y a aussi des rôles assez iconiques, notamment My Fair Lady. Tu jouais le rôle d'Elisa Doolittle. Donc My Fair Lady, avant d'être un film, c'était une pièce de théâtre. D'ailleurs, en faisant des recherches pour l'émission, j'ai appris que c'était Julie Andrews qui avait créé le rôle avant Drebber. Donc, ouais. Après, elle a joué Mary Poppins, ça s'est rattrapé.
Ouais.
Mais dans ces cas-là, quand tu joues un rôle comme celui d'Elisa Doolittle dans My Fair Lady ou de Cathy Seldon, je crois, s'appelle,
oui,
dans Chantons sous la pluie, on en reparlera un peu plus tard. Quelle est, toi, ta préparation? C'est-à-dire que tu disais, il y a tout le corpus, il y a tout le texte et les chorégraphies dont tu prends connaissance, que tu répètes. Mais quand c'est un rôle comme ça, aussi connu, est-ce que tu visionnes les films qui ont été faits avant, les interprétations précédentes, ou au contraire, tu préfères arriver dénué un petit peu et vierge de toute inspiration pour être pour être sûr de ne pas singer ce qui a déjà été fait.
Ouais. Moi, personnellement, je préfère ne pas regarder, okay. ne pas m'inspirer, ne
Ou
pas
alors
savoir.
De rester sur des souvenirs que tu en avais,
ouais,
si c'est des
ça.
Films que tu as
ouais,
vus.
Oui, c'est ça. Bah, clairement, My Fair Lady, c'est un film avec lequel, bah, encore une fois, j'ai grandi, ouais. Qui m'a fait absolument rêver. Audrey Hepburn est une actrice qui m'a toujours fait rêver, qui continue de me faire rêver. C'est assez incroyable. Donc, quand, déjà, quand je passais l'audition, je n'y croyais pas. Je me dis, bon, pff, voilà, c'est bon, je passe l'audition, c'est cool.
C'est toujours ça.
Ouais, voilà. Et puis, à la fin, quand on te dit c'est toi, tu dis, ah, d'accord, ok. Et puis, du coup, après coup, tu réalises. Et puis, et j'ai eu beaucoup cette question aussi, comment on fait pour passer après Audrey Hepburn, comment tout ça. Et en fait, il n'y a aucune comparaison possible, il n'y a aucune inspiration non plus possible, en tout cas de mon point de vue. Je suis vraiment partie du texte
ouais.
et j'ai vraiment essayé d'y aller avec ce que j'étais. Et tout est dans le texte, tout est dans la musique. C'est une œuvre qui est magnifiquement écrite,
bien
qui
sûr.
Est magnifiquement composée.
C'est vrai que le texte
donc,
et les musiques, rien que
là.
Ça finalement.
Ouais, tout est là. Ce qui a été fabuleux aussi, c'est que l'équipe créative qui m'a choisie m'a demandé d'inventer mon propre accent.
Okay.
Donc c'était une façon supplémentaire de m'approprier et de me dire ok, il n'y a pas à rentrer dans un style, un langage,
ouais.
une couleur particulière, je dois inventer ma propre couleur. Okay. Et ça du coup c'était un vrai cadeau quoi.
Oui, c'est vrai que pour celles et ceux qui n'ont pas vu My Fair Lady, mais voyez-le,
oui.
c'est vrai que ce dont tu parles, les accents en fait, c'est l'histoire du film, c'est... je crois que le roman ou la pièce originale qui était basée sur la pièce musicale, ça s'appelait Pygmalion.
Oui,
donc en fait,
ça.
C'est vraiment un Pygmalion qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui est un peu rustre et qui va réussir à en faire une jeune lady de la société.
Oui.
Et puis, étant donné que ça se passe en Angleterre, les accents, donc les accents d'en haut, on va dire, et les accents d'en bas, poche ou pas, ont une importance capitale. Et donc, ce dont tu parlais, c'est-à-dire quelque chose qui est... Ce marqueur social qu'est l'accent,
ouais.
qui est
ouais.
fondamentalement très capital. Est-ce que c'était aussi une difficulté supplémentaire à adapter et à retranscrire en français ?
Alors, j'ai trouvé qu'il avait bien géré. Les personnes qui sont occupées de l'adaptation ont fait ça très finement. Ils ont quand même gardé le fait que ça se passe en Angleterre, mais tout était adapté en français. Et de par le fait de me demander de créer mon propre accent, ça a créé comme un trouble dès le départ. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment dire d'où elle venait.
Ouais.
On ne savait pas vraiment, finalement, il n'y avait pas d'accent du Nord ou d'accent du Sud ou pas du tout. Et donc, ça a créé cette espèce d'ambivalence et de curiosité qui servait toute la suite du propos et de la pièce, quoi. Et ça a été stressant pour moi. Parce que comme on m'a dit juste, en fait, on m'a dit dans cette scène-là, le professeur te dit que tes O sont dit trop O et que tes E sont dit trop E. Et donc moi, je suis partie de ça pour me créer un accent. J'étais écouté beaucoup d'émissions radio, d'ailleurs, liégeoises.
Oui.
Enfin, voilà, des accents un peu comme ça.
Avec des patois un peu.
Avec des patois un peu, voilà, avec les E, les O,
ouais.
les trucs comme ça, tout ça. Et puis, j'ai un peu créé mon truc. Et la première fois que j'ai dû le faire devant tout le monde... Franchement, j'étais stressée, je me dis ça ressemble à rien, ça va pas le faire quoi. Et puis ça l'a fait complètement, ça a marché. Ouais. Et ça a servi tout le propos, je pense, ça a aidé sur tout le développement.
Et ça, My Fair Lady, c'est un rôle que tu as... Tu parlais de la façon dont tu avais été sélectionnée, ça s'était passé comment ? Tu avais passé des essais ? Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a beaucoup de... J'allais dire de rounds, c'est pas exactement le terme, mais il y a
tours,
plusieurs...
Des tours,
voilà.
Ouais,
donc c'est
des
ni
rounds,
moins la traduction française. Enfin, moi, je suis resté sur l'anglais. Parce que tu disais que tu y croyais pas forcément. Dans ces cas-là, c'est des gros castings avec beaucoup
de
prétendantes.
Oui, beaucoup.
Combien de tours alors ?
Je sais. Alors, ça dépend. En général, sur ce genre d'œuvre de casting et de production, ça peut aller jusqu'à 8 tours.
Ok.
Voilà, ça peut s'étaler sur 6 mois parfois.
Ah ouais, d'accord.
C'est, ça
Donc
peut
c'est
être
vraiment,
des longs,
c'est
long
bien
rounds.
En amont de.
Oui.
De la,
ouais.
De
alors
quand,
là, en
la représentation.
Ouais. Là, en l'occurrence, pour My Fair Lady, je crois qu'il y a eu 4 tours. Et ça s'est étalé sur 2 mois et demi, 3 mois, mais ça peut vraiment s'étaler beaucoup plus et avoir beaucoup plus de tours. Ça commence par la danse, c'est éliminatoire.
Ouais. Okay.
Et puis après, tu passes le chant, c'est éliminatoire aussi. Et puis après, on te demande d'apprendre des scènes. Et puis ensuite, si tu intéresses, on te refait passer avec peut-être un potentiel professeur ou un autre potentiel
D'accord.
professeur. Et puis on essaie de trouver
de
le
matcher.
Bon, voilà,
le bon
match.
Bon match.
Ouais. Donc non, ça peut durer longtemps et c'est très éprouvant.
D'accord, ouais, effectivement. Ouais. Et c'est un, pour avoir lu un petit peu les critiques qui avaient été faites à l'époque, c'est quelque chose qui avait. Les critiques étaient très bonnes, notamment sur ce qui concernait ta performance, peut-être y compris ton accent. Est-ce qu'en termes de notoriété, de proposition, est-ce que ça a marqué un avant et un après ?
Oui, clairement. Ouais. Clairement, ouais, ça a marqué un avant, un après, exactement.
On est venu davantage te chercher.
Davantage me chercher, ça c'est sûr. Et puis ça m'a ouvert toute une perspective de travail en Belgique.
D'accord.
Avec de nouvelles rencontres, de nouveaux directeurs de théâtre avec qui je vais travailler prochainement. Ça m'a aussi donné une assise aussi, mais par rapport à moi-même.
Oui, par rapport à ce que tu disais. En termes de crédibilité, même vis-à-vis de toi-même.
Exactement.
Tu parlais de la danse qui n'était pas forcément ton élément principal. Là, effectivement, ça avait dû te donner la confiance sur à la fois la danse, le chant et la comédie.
Tout. Et puis c'était la première fois qu'on me confie. Alors j'avais eu des premiers rôles à travailler auparavant, mais c'était tout le temps en alternance ou en doublure.
En doublure, d'accord.
Voilà. Ouais. Ou des rôles plus petits. Okay. Mais là, c'était vraiment la première fois qu'on me confiait un rôle qui est tout le temps.
Oui, et puis My Fair Lady, c'est la Fair Lady, donc elle est dans toute la pièce.
C'est ça.
Et
donc,
tu parles. Donc tu disais, ça t'a ouvert des portes, notamment en Belgique. C'était une pièce qui était jouée d'abord en Belgique, mais en France ou l'inverse ?
Alors, ça n'a pas eu l'occasion de jouer en France. Il y avait une tournée qui se préparait, mais avec le Covid, on n'a plus trop eu de nouvelles. Voilà. Mais par contre, ça s'est joué 3 mois et demi en Belgique à un festival qui s'appelle le Festival Bruxellon.
D'accord.
Et qui font chaque année, et je recommande vraiment, chaque année ils font, donc c'est du théâtre musical en plein air.
Okay.
C'est dans le cœur, dans la cour d'un château, c'est un lieu absolument magnifique, juste à côté de Bruxelles, le château de Carvel, d'Amolenbeek. Et donc en fait, on a joué ça se joue tout l'été, chaque année ils font une grosse œuvre de comédie musicale comme ça. Là cette année ils vont faire Elisabeth, et là on est sur les auditions pour West Side Story l'année prochaine.
Ah oui, d'accord.
C'est vraiment des œuvres comme ça, très costauds.
C'est fédératrice aussi, souvent ?
Totalement fédératrice.
Des choix qui parlent aux gens
Complètement, ouais. Qui parlent aux gens et puis qui invitent aussi la curiosité de ceux qui n'ont pas l'habitude de voir de la comédie musicale.
Bien
et comme c'est des œuvres magistrales, forcément, ça plaît.
Ouais.
Voilà, c'est des œuvres qui ont fait leur preuve depuis très longtemps. Et c'est des équipes incroyables, voilà.
Ok, super. Mmh. Oui, parce que tu disais, en plus, My Fair Lady, c'est vrai qu'on parlait des décors tout à l'heure. Le décor, il est majestueux, donc ça prend son sens, ça prend tout son sens aussi. Sur des grandes scènes avec grand public.
Ouais, complètement. Un décor. C'est des décors opératiques. Hein,
Bien sûr.
Ouais. Et puis en plus, c'est sous les étoiles, quoi. C'est en plein air. Donc c'est incroyable. Il y a tous ces techniciens qui travaillent jour et nuit.
Ouais.
Et tu vois la structure technique, quoi, se monter. Parce qu'il n'y a pas de. C'est pas une boîte, c'est
ouais,
à
ouais.
ciel, quoi, ouvert. Donc il y a les cintres qui se font monter avec les projecteurs et tout. Et quand tu vois ça,
t'as l'impression que ça sort de terre.
Oui, tu vois ça, tu te dis waouh, au fur et à mesure des répètes, tu vois le truc se monter. Après, tu vois que tu joues là-dessous. Tous les soirs.
Et toi, tu es un peu au centre de tout ça.
Tu es au centre de tout ça et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était fou.
Et justement, il y a quelque chose que tu disais avant qui est très intéressant. Tu disais, les rôles que tu avais avant, c'est des rôles plus mineurs ou en tout cas pas des rôles principaux ou des rôles en doublure.
Ouais.
Le fait d'être un petit peu au centre, en termes de logistique purement, ce dont tu parlais à l'instant, quand tu pars en tournée, tout ça, et au centre des préoccupations, et ça apporte aussi, j'imagine, une bonne dose de pression en plus.
Ouais, grosse dose de pression. Après,
qui est saine ou qui est difficile à trimballer ?
Je pense que ça dépend ce qu'on en fait.
Ouais.
Moi, j'avoue, je l'ai pas mal vécu, mais aussi, je pense que ça dépend beaucoup de l'équipe qui t'entoure.
Mmh.
Ça dépend beaucoup de l'équipe créatrice qui t'entoure aussi, du metteur en scène, de toutes les gens de la production,
ouais.
De tout ce qui t'entoure en fait. Et puis c'est un métier, surtout le métier de comédie musicale, c'est un métier de troupe. Donc
ouais.
En fait, il y a pas trop. Enfin, moi, je sens pas trop la place à un élément central et puis le reste autour. Donc la pression là, parce qu'on se dit, ok, en tout cas sur My Fair Lady, je n'avais pas de doublure pour le coup,
d'accord.
J'avais pas d'alternant, donc s'il y a un truc dans ma voix.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, sans même parler que tu casses une jambe, tu peux attraper un rhume et avoir une extinction de voix,
c'est pas
forcément quelque chose de gros, mais il y a un petit caillou dans la chaussure.
Voilà, il y a un petit truc par rapport à ça, mais on se sent très bien entouré, et puis il y a la magie du corps aussi, je crois, qui prend le relais, il y a une forme d'adrénaline qui se fait, où d'un coup le corps en fait n'est plus malade. malade, ou alors si t'es malade, tu arrives à chanter. Il y a des choses comme ça, c'est incroyable. Par contre, à la fin,
dessus.
Ouais, quand t'as fini ton contrat, en général, tu t'écrases. Tu t'écrases bien une semaine.
Là,
voilà,
le corps retombe.
Voilà, le corps retombe, tout retombe. Voilà, c'est ça.
Oui, parce que c'est. Alors, comment dire, par rapport à ce que tu disais, l'exemple toujours un petit peu extrême qu'on prend, c'est celui des chanteurs lyriques ou des chanteurs d'opéra. Et quand tu vois un petit peu le mode de vie, l'hygiène de vie même de ces gens-là, c'est vrai que c'est un train de vie qui est quasiment monacal, puisqu'à partir du moment où ta voix ton instrument et même ton gagne-pain, pour le dire comme ça, ouais. Tu n'as pas le droit à la moindre incartade, tu ne peux pas te casser.
Ou alors, si tu fais une incartade, tu assumes et tu sais que le lendemain, ça va être dur. Donc, tu ne le fais pas. Tu ne veux pas souffrir sur scène. Mais oui, c'est quand j'ai commencé à apprendre un petit peu ce métier, les premières choses qu'on m'a dit, c'est 99% de travail. Mmh. Et puis, il faut que tu te considères comme un grand sportif.
Ouais.
Il faut que tu t'entraînes tous les jours. Il faut que ton corps il soit dans des bonnes conditions. Il faut que tu dormes. Il faut que tu boives beaucoup d'eau. Il faut que tu étires ton instrument.
Bien sûr.
Et il faut que tu t'entraînes. Et voilà. Et donc, c'est un peu pareil. C'est un peu comme un sportif qui prépare une compétition. Je ne pense pas qu'il aille faire la chouille tous les soirs avant de... Voilà, c'est un peu la même chose. Mais ça se fait naturellement, par amour aussi, par volonté de bien vouloir faire.
Bien sûr.
D'être
tranquille sur scène.
Et puis,
si c'est quelque chose que tu aimes faire et que tu veux déployer tout ce que tu es capable de faire en plus.
Oui.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Donc là, on parlait de My Fair Lady, ça c'était en quelle année ?
My Fair Lady, c'était juste avant le Covid, donc 2019.
D'accord, donc on peut partir du principe qu'entre 2020 et mi-2020, début 2020 et mi-2021, il y a beaucoup de choses qui ont été en stand-by.
Complètement,
Et donc après la pièce que tu as reprise, tu vas me dire les dates exactement, mais il me semble que c'était à partir de mi-2021 ou fin 2021, c'était la pièce Exit. Qui était joué au théâtre de la Huchette. C'est la pièce dans laquelle j'ai eu la chance de te découvrir. Une pièce, j'allais dire une très belle pièce, mais c'est le cas parce que ça dit pas mal de choses, y compris la vie en couple, sur la vie, la vie tout court. Et c'est une pièce assez loufoque en fait, qui mélange, histoire de France, jeux vidéo, politique. Enfin, ça
va dans
c'est un mash-up
les...
un peu.
C'est difficile à
c'est difficile. Ça va pas dans tous les sens. Enfin, ça va pas dans le sens où ça s'éparpille. Mais bon, pour la faire courte, c'est l'histoire de Sybille, il me semble, elle s'appelle, qui est pris en étau le jour où en fait elle est conceptrice dans une société de jeux vidéo.
Ouais.
Elle est en couple avec un homme depuis longtemps et elle a l'occasion de travailler avec un développeur de jeux vidéo qui est lui anglais et pour qui elle va avoir des sentiments aussi. Donc elle va devoir choisir entre les deux. Et comme si tout ça suffisait pas, ça se passe en plein Brexit et ces allées et venues sont compliquées. Alors moi j'avais eu l'occasion de le voir à la toute dernière représentation, donc c'était le 2 janvier dernier, donc ce qui était bien c'était donc au théâtre de la Huchette, toute l'équipe créative était là et tout le monde avait été présenté. Et alors c'est un projet très très particulier, un peu fou. Toi, comment tu étais arrivé sur ce projet-là ?
Comment je suis arrivée sur ce projet-là ? Alors, en fait, c'est Stéphane Laporte qui est un des auteurs. Il a écrit Exit avec Gaëtan Borg. Et donc, ce sont des personnes que je connais depuis quelques années. On se suit un petit peu de loin. Et puis, Stéphane Laporte a été l'adaptateur français principal de My Fair Lady.
D'accord.
Et donc, vraiment, la rencontre artistique s'est faite sur My Fair Lady, où il m'a découvert artistiquement, véritablement. Et moi, j'ai rencontré aussi un auteur, artiste, un homme, quoi. Et puis, il y a eu comme un petit coup de foudre artistique. Et donc, on était en plein Covid et j'ai mon téléphone qui a sonné. Stéphane, qui était en réunion d'écriture avec Gaëtan et qui me dit « Dis-moi que tu es disponible l'été prochain. On est en train d'écrire une pièce, le premier rôle. Si tu es disponible, il faut que ce soit toi. »
Ah, donc le rôle a été écrit pour toi.
Ouais, première fois que ça m'arrivait. Franchement, je suis tombée des nues au téléphone et je lui dis je suis disponible, donc allons-y.
Comme beaucoup de gens dans le spectacle vivant, tu étais disponible.
Oui,
tu guettais les...
Ouais.
les nouvelles mesures sanitaires qui allaient tomber ou évoluer.
Oui, c'est ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance et je les remercie toujours. Et oui, effectivement, c'était la première fois qu'on me composait un rôle quasiment sur mesure.
C'est un très beau rôle en plus.
Ouais, c'est un rôle magnifique. C'est un rôle magnifique. Et puis, quand il m'a pitché le truc vite fait au téléphone, voilà, ils n'avaient pas écrit tout. Ils n'avaient pas écrit grand-chose encore. Ouais. Ils étaient vraiment partis sur l'idée, voilà, ça va traiter du Brexit, un peu du jeu vidéo. Tu serais une conceptrice entre deux hommes, un français, un anglais. Mais surtout, ça parle d'une femme dans sa vie de femme. Où est-ce qu'elle en est elle vient d'avoir 30 ans. Et alors qu'est-ce qu'elle a envie de faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle a envie de faire de sa peau. Et puis au fur et à mesure qu'ils écrivaient et qu'ils m'en parlaient, je me retrouvais beaucoup dans cette Sibylle. Je trouve que c'est un personnage magnifique.
Oui, c'est ce que tu disais, c'est ce que je n'ai pas forcément véhiculé dans ce que je disais, mais c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le côté totalement loufoque et vraiment le côté d'empiler comme un mash-up les différentes thématiques un peu contradictoires ou en tout cas qui n'ont pas forcément à voir. Et puis il y a aussi un aspect beaucoup plus presque dramatique sur les choix qu'elle doit faire, entre qui choisir, et puis de pas de penser à elle aussi et de
s'émanciper,
exactement, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, c'est je veux bien croire que c'était un rôle, enfin un beau rôle à jouer, parce que c'est vraiment c'est un rôle qui est riche et qui est beau, quoi.
Ouais, c'est un rôle magnifique. Et puis c'est un rôle, surtout j'ai pu constater, déjà moi il m'a parlé tout de suite, et puis toutes les femmes, peu importe la génération, mais vraiment peu importe, à la fin du spectacle avec qui j'ai eu le bonheur d'échanger un petit peu, toutes m'ont dit je me suis vue à ce moment-là, j'ai vécu la même chose, moi aussi j'étais dans ce choix, et c'est juste magnifique.
Oui, c'est un très beau compliment qu'on peut te,
faire. C'est les personnages les plus forts à jouer pour une femme, je trouve. My Fair Lady, c'était un peu pareil. C'était vraiment l'histoire d'une femme qui part de rien et qui s'émancipe. Mais en fait, on croit que c'est grâce à un homme, mais non, c'est grâce à elle-même. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et ça se finit sur ça. Et c'est vraiment des personnages, je trouve, en tant que femme, qui sont forts et qui sont très émouvants à interpréter.
Ouais. Et d'ailleurs, à propos de Exit, malheureusement, j'ai pas fait mes recherches assidûment avant l'émission, mais on parlait de tes deux partenaires. Il y en a un qui est dans la pièce qui est français, l'autre qui est anglais. Et je sais que le nom de ton partenaire français, c'est Simon Heul, et l'autre sont...
Est-ce que c'est Harold Savary.
Voilà, chercher. Il faut les citer, parce que tu citais les créateurs de la pièce, et eux, je trouve, tes deux partenaires, ils font un boulot aussi fantastique. Notamment le personnage de Simon Heul. Alors son nom, son prénom dans la pièce m'échappe.
C'était Antoine.
Voilà, mais le rôle qui est... Et moi, peut-être que je me suis reconnu plus Antoine. Que j'aurais aimé. Non, voilà. Non, mais c'est ça qui est très... Enfin, c'est là qu'on voit aussi que c'est très finement écrit. Et c'est ça qui est très bien, c'est qu'au début, tu penses que c'est juste un gars un petit peu immature, un peu le bouffon de service, et puis il est développé et enrichi quand avance la pièce,
au fur et à mesure. Non, c'est vraiment un trio magnifique qu'ils ont écrit, qui nous ont offert.
Donc ça, c'est une pièce que vous avez jouée, donc tu disais, depuis l'été 2021 jusqu'à là, début 2022.
Ouais, c'est ça.
Il y a eu quelques ça a été prolongé.
Alors en fait, on a joué une première salve, donc du 5 juin jusqu'à début septembre, et puis après ils nous ont annoncé les prolongations jusqu'à début janvier. Et voilà, donc on s'est arrêté là début janvier, avec, pour le moment, on ne sait pas s'il y aura une reprise en Avignon, on ne sait pas.
Okay.
Mais on se le souhaite.
En tout cas, j'espère, parce que rien que pour tous ceux qui écoutent l'émission puissent le voir. Et en plus, moi je suis sorti de là et je trouvais que les musiques étaient fantastiques.
Les musiques sont magnifiques.
Les mélodies. Et en plus, il faisait la promotion du CD au moment de la pièce.
Ah oui.
Et avant la pièce, je me suis dit, quand même. Et après, j'aurais dû acheter le CD, parce que je ne sais pas si elle est disponible sur Internet ou sur les plateformes.
Disponible sur les plateformes, où on peut se faire livrer le CD aussi.
Et c'est vraiment tout. Enfin, je comme on en parlait un petit peu avant l'émission, je suis pas forcément un grand fréquentateur de comédie musicale, mais là j'étais vraiment sous le charme, parce que c'est vrai qu'il y a tout. C'est ce que ça rejoint ce que tu disais avant. Il y a vraiment le côté, il y a une mise en scène qui est un peu dingue avec les costumes, les décors, puisque vu que ça s'inspire de
jeux vidéo.
Voilà, il y a l'aspect jeux vidéo, il y a l'aspect Histoire de France avec Eleanor Dexton et tous les costumes vivre avec. Et en plus, comment dire, ouais, les mélodies, toutes, enfin, c'est vraiment des mélodies qui restent dans la tête. Enfin, c'est assez enfilé.
Ouais, le travail de musique, de
donner vie à ce spectacle sur un théâtre qui est assez petit comme celui, comme la scène du théâtre de la Huchette.
Ah, j'imagine oui, c'est tout que petit, c'était. C'est gros big up au metteur en scène, parce qu'en Patrick Alvin, qui a moi, fait pareil, un travail de fou.
Et je pense que j'étais assis au troisième ou au quatrième rang. Et il y a des moments dans la pièce où ça correspond aux scènes où dans la pièce, tu prends l'Eurostar.
L'Eurostar.
Et donc, tu n'es pas sur la scène. Et j'étais au troisième rang. Et je pense que tu étais assise quasiment à côté de moi. Donc, en fait,
c'est vraiment... Dans la salle.
Là, c'est pareil. J'imagine qu'il faut déployer des trésors de créativité pour... tout caser, à la fois pouvoir danser, se déplacer, pas se marcher les uns sur les autres et rentrer les décors. Quoi.
Ça a été le travail du metteur en scène qui a fait un travail de dingue aussi dans son imagination. Il s'est dit, je vais transformer la Huchette en Eurostar. Et puis, il va y avoir aussi un peu d'histoire de France, un peu de machin. C'est quoi ce bordel? Et puis, quand on répétait, il nous a dit, attention, pas trop près des murs. Ok, mais enfin, si on n'est pas près des murs, on est les uns sur les autres. Quoi. Et en fait, il a réussi à nous amener, boum, 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 dans toutes les émotions physiquement. Le lieu de le prendre, de faire notre lieu de vie, quoi, vraiment. Après, on a eu une chance aussi, c'est que comme il y avait le Covid, donc une chance dans la malchance, c'est qu'on nous a laissé le théâtre et on s'est retrouvés, toute l'équipe réunie. Okay. Donc, tous les jours, on avait le directeur musical, qui est donc le compositeur, Didier Bailly, le metteur en scène, son assistant, les deux auteurs dans la salle, en permanence, avec nous trois au plateau. Et donc, on a pu créer au fur et à mesure dans l'espace.
Vous étiez presque en résidence, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. On a été en résidence pendant un mois et demi avant de jouer. Donc, c'était un luxe aussi.
Ouais.
Et ouais.
Parce que t'es pas dans le cas où tu répètes sur une grande scène et puis il faut passer à une scène qui est beaucoup plus petite et tu te dis comment on va faire pour...
Non, la question s'est plus posée à la fin quand on nous dit vous allez peut-être jouer ailleurs. Là on s'est dit ok, donc comment on va faire?
T'as l'impression que personne est de l'autre côté de la scène et à 5 mètres t'as plus l'habitude. Parce que tu parlais de quand tu jouais à Bruxelles où là c'était une scène j'imagine beaucoup plus grande avec une audience beaucoup plus grande et même le fait de jouer dans des petits théâtres, par rapport à ce que tu disais avant, avec cette identification du public et ce lien avec le public, c'est aussi quelque chose de très fort que ça induit.
C'est hyper puissant.
Parce que le fait, comme je disais avant, le fait que la personne, alors qu'elle est dans la pièce, si tu es assis au troisième rang, qu'elle soit quasiment à côté de toi, ou que tu sois dans un grand théâtre au fond et que tu la vois comme si tu étais assis dans un stade, en termes d'identification et de ressenti, ça n'a rien à voir.
Ouais. J'imagine qu'en tant que spectateur, ça n'a rien à voir, c'est clair. Et puis, en tant qu'acteur, moi, toutes les premières fois où j'ai dû jouer les scènes dans ces fameuses scènes d'Eurostar où je suis dans le public, franchement, j'en menais pas large, quoi.
Ouais.
Je me suis dit, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi près des gens. D'habitude, je ne vois pas leur visage. J'ai joué plus dans des grandes salles que dans des toutes petites. Donc, franchement, je tremblais. Les premières fois, je me disais comment.
Tu apostrophes presque les gens et tout. Donc
oui, tu leur parles directement. Ouais. Et puis, tu as une petite part d'impro. Donc, tu dis, oh là 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 là, comment ça va se passer? Et puis, il y a des gens qui réagissent, qui répondent.
Discutent
et tout. Tu dis, oh mon Dieu. Et après, en fait, on prend très vite goût et ça devient hyper grisant, quoi, de se retrouver au centre du public, quoi.
Et de presque d'être sans filet de sécurité
complètement.
Par certains moments.
Ouais, complètement. Et même de devoir chanter aussi près. On n'avait pas de micro à la Huchette, c'est tellement petit. Et donc au début, on se dit, mais les gens ne vont pas nous entendre. Et en fait, si, parce que la balance et l'écho fait que ça marche très, très bien. Et du coup, beaucoup de gens à la sortie nous disaient, c'est des gens qui avaient l'habitude de voir des shows microtés, nous disaient, waouh, c'est fou.
Ouais.
On a l'impression d'avoir accès à une forme d'intimité, en fait, avec ce spectacle. On a l'impression d'être dans l'intimité des personnages, d'être avec eux. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de fréquence qui vient se mettre entre vous et nous, quoi. Et c'était assez fort de constater que ce que nous, on pouvait sentir sur scène d'assez déstabilisant, le public le ressentait comme quelque chose de très généreux et de très...
c'est ça. C'est vrai que c'est ce que tu dis, le fait que vous ayez pas de micro, tout ça, c'est comme si tu vois un concert dans une grande salle ou un concert beaucoup plus intimiste et acoustique avec des instruments acoustiques, ça n'a rien à voir, effectivement. Quoi. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'étais très heureux de voir Exit au buzzer, c'est-à-dire juste avant que ce soit... que ce soit plus programmé en tout cas à la Huchette, peut-être que vous reprendrez sur une plus grande scène et ça, ce sera encore un challenge. Donc On parlait de tes activités théâtrales. Tu es aussi, tu es également metteuse en scène, notamment pour des spectacles à destination du jeune public, yes, avec la compagnie, il me semble, Compote de Prod.
Ouais, c'est ça.
Super nom de compagnie. Et il me semble qu'il y avait un des spectacles, c'était La cigale sans la fourmi, c'est ça?
Ouais, ouais.
Donc
ouais,
ça, c'était des expériences qui étaient différentes. Comment ça s'était
ouais,
fait?
Ouais, complètement différentes. Comment ça s'est fait? En fait, c'est bah, justement Compote de Prod qui m'ont approché il y a une dizaine d'années maintenant, parce qu'en fait ils cherchaient, ils voulaient monter un Alice, une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles en comédie musicale,
okay,
pour le jeune public, et ils cherchaient à faire intégrer dans leur équipe un metteur en scène ou une metteuse en scène, mais voilà, c'était des jeunes, juste avant ils avaient fait un spectacle, mais c'était pas de façon trop pro, c'était mi-pro, mi-voilà,
ouais,
mi-amateur, voilà,
ouais,
c'était un peu
semi-pro
on va ouais dire, et puis vraiment avec cette envie de faire les choses très très bien et tout ça. Et des passionnés, hein, des passionnés de comédie musicale, tout ça. Voilà. Et puis, et donc, ils cherchaient quelqu'un qui n'avait pas forcément encore fait ça, qui pouvait.
Mais toi, tu étais déjà pro à l'époque, mais
alors,
chanteuse, enfin comédienne, ouais, chanteuse, mais pas metteuse en scène.
Exactement.
T'avais pas d'expérience de la mise
non,
en scène.
Du tout, du okay tout. Alors, à l'école de théâtre, j'avais écrit des choses, j'avais ouais fait des cartes blanches où naturellement, en fait, je m'étais mise à faire un peu de mise en scène ou de direction. Mm-hmm. Mais bon, moi, dans ma tête, voilà quoi. Et donc, ils m'ont approché, ils m'ont demandé est-ce que ça pourrait t'intéresser. Je dis bah ouais, pourquoi pas. Ils m'ont dit bon, vous êtes trois, on va t'envoyer une scène, une chanson. Tu nous fais une proposition et puis on, les autres c'est pareil, et on choisira la proposition qui nous plaît le plus. Et puis ils ont choisi la mienne.
Super.
Par chance. Et donc ça a commencé comme ça en fait. Donc il y a eu cette première mise en scène, Alice, la comédie musicale, qui continue de tourner encore. Ça, là on a fêté les 8 ans du spectacle il y a quelques
jours.
Ah oui,
jours. D'accord. Donc ouais, c'est un beau succès pérenne.
C'est un super succès, ouais, qui part chaque année en tournée et tout. Plusieurs
fois
à Avignon, dans toute
ouais,
la France. Enfin vraiment. Bah non, vraiment génial, avec une équipe magnifique qui s'agrandit un petit peu chaque année. Enfin, c'est super. Et suite à ça, ils ont passé commande. Donc, ils ont voulu faire une adaptation des Fables de La Fontaine. Ouais. Et donc, ils ont passé commande auprès de Stéphane Laporte et Gaëtan Borg, qui sont les deux auteurs
toujours
d'Exit.
Eux.
Voilà,
d'accord,
donc les choses se recoupent.
Ouais.
C'est un métier de rencontre.
Bien sûr.
Voilà, et donc, eux, ils ont pondu La cigale sans la fourmi, un spectacle complètement loufoque et dingue, qui donc, en fait, qui fait passer par des fables qui sont méconnues, en fait.
D'accord.
Voilà, on tombe un petit peu au pays des fables oubliées.
Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le loup et l'agneau, c'est pas La cigale et la fourmi,
non,
ou le corbeau
et le renard.
Non, en
gros, on part des personnages qu'on connaît tous. Ouais. La fourmi débarque pendant que les deux sœurs grenouilles font leur fable. La cigale a disparu, elle a été kidnappée par une folle dingue, une sorcière. Aidez-moi à la retrouver. Et donc, le renard, les sœurs grenouilles, le lièvre, le corbeau décident d'aider fourmis et partent en quête de où est passée cigale. Et
d'accord,
donc, ils partent au pays de la basse moralité où se trouvent plus de 141 fables dont on ne connaît pas trop le nom et dont on a moins entendu parler.
Mais est-ce que c'est des vraies fables de La Fontaine qui sont méconnues,
c'est
ou c'est des choses qu'ils ont...
Ah,
d'accord,
c'est tout à
oui,
fait des vraies fables.
Parce que c'est vrai
fables
qu'il en a écrit, j'allais dire une centaine, mais peut-être même plus. Et à l'école,
en
fait, on apprend
200,
les, on apprend les toujours les cinq mêmes. En fait.
Toujours les cinq mêmes. Oui, c'est ça. Et donc, ça part de ce traitement-là. Et puis bon, ça bascule dans une espèce d'épopée assez dingue. Et c'est effectivement un travail qui est complètement différent de celui de comédienne-chanteuse. Mmh. Et effectivement, ça amène une vision différente du métier, des équipes, en apportant aussi un regard plus d'un point de vue production,
ouais,
d'un point de vue organisation, logistique et tout. Enfin voilà, ça change beaucoup, beaucoup de choses.
Justement, le fait d'être passé de l'autre côté de la barrière, pour le dire comme ça, toi, est-ce que ça t'a aidé ensuite
oui,
de
ouais
voir les choses, y compris, comme tu disais, d'un point de vue logistique, c'est-à-dire que quand tu travailles avec le metteur en scène, tu vois désormais quel est son boulot, y compris en amont, y compris sur toute l'organisation.
Ouais. Carrément. En tant que comédienne, ça m'a déjà beaucoup aidée parce que donc il y a une dizaine d'années, quand j'ai fait passer les auditions pour Alice, je me suis retrouvée de l'autre côté de la table. Et jusqu'à
ouais
présent, en fait, je rentrais dans les salles et je me sentais jugée. Et là, ce coup-ci, c'est moi qui allais entre guillemets juger.
Mmh.
Et
en tout cas, mettre à l'épreuve.
En tout cas, voilà, mettre à l'épreuve des gens à la place de qui je suis d'habitude moi-même, tu vois. Donc, c'était assez fou et ça a vraiment créé un déclic pour la comédienne, pour l'artiste que je suis. C'est-à-dire que les fois suivantes, à chaque fois que je suis rentrée dans une salle d'audition, je n'avais plus la même pression, j'avais plus la même impression. Je voyais les choses différemment parce que j'avais été de l'autre côté de la table. Et donc, on se rend compte à quel point un détail peut changer beaucoup de choses, à quel point, en fait, c'est pas que tu as mal chanté, c'est pas que que t'étais pas assez prêt, c'est juste qu'en fait par rapport à quelqu'un d'autre, bien ça sûr. Correspond moins.
Il suffit d'une personne qui est un peu meilleure que toi sur.
Oui, ou alors juste d'une correspondance entre deux profils qui matchent mieux alors entre que t'as été super. Et... voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment ça se joue à rien du tout.
Et finalement, par rapport à cette question de la pression dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi ça qui t'a libéré d'un poids.
Ouais, ça m'a libéré d'un poids, pas mal, ouais. Et puis ça m'a aussi, encore une fois, question de confiance, ça m'a aussi donné un boost de confiance qui m'a fait du bien aussi. Voilà, de devoir en fait choisir, décider et driver des comédiens sur un plateau, je devais arriver en sachant exactement où est-ce que je voulais qu'ils aillent, dans quel sens je voulais que l'histoire prenne, et ce que je voulais qu'il soit raconté. Donc moi, en tant que comédienne, en fait, je me suis retrouvée assez naturellement à déjà accepter qu'on m'emmène dans un univers qui n'est pas le mien, qu'on m'emmène dans une direction que je n'aurais pas moi-même forcément prise. Tu vois, et aussi ça m'a assurée sur mon univers à moi. Le fait de devoir choisir pour les autres, ça aide à choisir pour soi, okay. Finalement.
Le quatrième mur, l'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir à 21h sur Radio Campus Paris.
Justement, quand t'es metteur en scène, outre l'aspect logistique et les choix artistiques que tu dois faire, il y a une donnée qui est importante, c'est la direction d'acteur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu intègres et que tu intériorises quand t'es comédien, ou justement, c'est quelque chose qui est un peu difficile quand tu débutes en tant que metteur en scène y compris la pédagogie qui va avec, ouais, puisque en fait, tu peux avoir une idée très précise de ce que tu veux faire sans pour autant...
Oui, c'est ça. Moi, je crois que c'est plutôt une question de pédagogie, effectivement. Ouais. Je n'ai pas personnellement senti une difficulté à diriger des gens. J'ai toujours adoré faire ça. Même avant, comme je te disais, déjà quand j'étais à mes cours de théâtre et tout, de façon assez naturelle, ça se tournait comme ça. J'adore faire de la direction d'acteurs, etc. Et les acteurs avec qui j'en fais me le rendent bien. Mais c'est vrai que j'ai appris à mes dépens. Qu'on a affaire, et moi je me mets dedans, hein, à des personnalités, et les acteurs sont des êtres fragiles. Je suis moi-même fragile quand je suis sur un plateau. Et donc, en tant que metteur en scène, ou en tant que producteur, ou en tant que directeur musical, ou quand on a ce rôle-là à porter, il faut aussi prendre en considération le fait que ton comédien, ton artiste au plateau a une fragilité. Et ça, on ne nous l'apprend pas forcément. Donc je l'ai un peu appris ça à mes dépens au fur et à mesure, à force aussi de devoir travailler avec de nouveaux artistes, de nouvelles générations d'artistes qui ont des comportements aussi différents qu'une ancienne génération, enfin tout ça. Donc ça, c'est pas évident. Le plus difficile, c'est la pédagogie et savoir... comprendre l'artiste qui est en face de soi et l'amener à chaque fois de façon différente au même résultat, mais en l'accompagnant de façon différente.
Et outre les quelques expériences de mise en scène dont on parlait, est-ce que justement c'est quelque chose que tu aimerais bien une expérience que tu aimerais bien réitérer qui est prévue pour l'instant, ou pour l'instant c'est tes projets en tant que comédienne et chanteuse qui prennent le pas dessus?
C'est une expérience que j'adorerais réitérer et que je vais réitérer, c'est sûr. Quand, comment, je sais pas. Il y a eu deux propositions, mais c'était pareil en période juste post-Covid. Donc finalement, il n'y a pas eu de suite pour le moment. Mais peut-être que ça va revenir. Après, moi, j'ai aussi des projets personnels sur lesquels je travaille. Mais c'est sûr, oui, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je pense pas laisser ça de côté.
Et le fait de s'adresser à un public jeune, d'enfants ou d'adolescents, c'est encore... différent de ce que tu accomplis quand tu es dans une comédie musicale qui est, on va dire, tout public, mais en tout cas destiné à un public plus adulte.
Ouais. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas trop faire de différence entre les enfants et les adultes, qu'il ne faut pas s'adresser à un enfant comme un petit enfant, mais comme à un être humain, tu vois. Donc, à ce niveau-là, non, je ne fais pas trop la différence. Par contre, en tant que metteur en scène ou en tant qu'auteur, j'aime travailler et j'aime imaginer des choses qui sont plus destinées au jeune public, parce que pour moi, l'éducation, c'est la base d'absolument tout.
Bien sûr.
Et donc ça passe principalement par là, et je crois que c'est important que, enfin, moi j'ai eu la chance en tant que jeune enfant d'aller beaucoup au théâtre, beaucoup voir des orchestres, voir des opéras, au musée, et tout ça, c'est ça qui m'a donné le goût de tout ça, c'est ça qui m'a aussi, je pense, ouvert l'esprit sur plein de choses.
Évidemment.
J'ai vraiment eu cette chance, et je pense qu'il faut que les enfants à n'importe où doivent avoir vraiment cette chance-là de pouvoir travailler leur imaginaire, lâcher prise et se rendre compte que voilà que y a tout plein de possibilités entre la musique, la danse, l'expression, peu importe laquelle. Mais c'est
tu en es la preuve. C'est que les disciplines finissent par
se croiser.
Se croiser, ouais. Et voilà. Donc oui, c'est aussi toi ta volonté de cette éducation artistique et créative là. C'est aussi toi ta volonté d'apporter ta pierre à l'édifice. Ouais.
Oui, un petit niveau. J'aimerais faire beaucoup beaucoup plus, mais pour l'instant je n'y arrive pas, je ne peux pas. Mais oui, je trouve que voilà, donc ça me touche particulièrement de travailler pour un public de jeunes enfants, de jeunes adultes. Ouais.
Très bien. Outre tes activités au théâtre, tu as également joué et il me semble réalisé dans plusieurs courts-métrages. Alors j'imagine que quand tu fais ça, c'est assez différent en termes de mise en scène et de jeu que quand tu es au théâtre, justement. Comment ça s'était déroulé, ces quelques expériences ?
Ouais, c'est complètement différent. C'est pareil, c'est une expérience... je pense qu'il est arrangé d'un autre côté que le théâtre. C'est pas du tout les mêmes sensations. C'est pas le même travail qu'on nous demande. La caméra, c'est un œil, c'est comme un zoom énorme sur tout, sur toutes les émotions, sur tout le physique, sur tout l'environnement, sur tout quoi. On est micro caméra. C'est pas une salle. C'est pas comme dans une salle où on a une espèce de forme de respiration, de largeur. Ça n'a rien à voir.
Et d'échange avec le public.
Complètement, ouais. Complètement, ouais, ouais. À chaque fois, ça a été un bonheur, les expériences que j'ai eues, que ce soit en tant que réal ou que ce soit en tant que comédienne. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est vrai que c'est deux milieux qui sont complètement différents. Et dans notre métier, on a tendance à dire « Ah, si tu fais de la comédie musicale, t'es pas un comédien. Ah, si tu danses, alors tu peux pas jouer la comédie. Ah, enfin voilà. » Donc en fait, on scinde un peu tout ça. Et puis d'accord. Le milieu du cinéma est très « Oui, c'est le ciné. » Puis le théâtre, c'est autre chose. Et donc, on a tendance aussi à dire, et on le constate, enfin moi je le constate, quand tu commences à créer ou à développer une carrière dans un des milieux, c'est très compliqué.
C'est cloisonné.
C'est hyper cloisonné. Mmh. Donc, c'est vrai que d'arriver à dribbler sur les deux, moi je dis grand bravo à ceux qui y arrivent, enfin absolument. Donc pour l'instant, j'ai pas encore cette chance-là d'arriver à dribbler avec tout ça. Mais par contre, c'est mes premiers amours, c'est le cinéma. C'est comme je te disais au tout début, moi, mes premiers rêves quand j'étais enfant, c'était du film musical. Mmh. Ouais.
La transition est toute trouvée puisque en ce moment, tu joues Chantons sous la pluie.
Yes.
À l'Opéra de Reims. Donc tu joues le rôle, comme je disais, de Cathy Seldon. Donc un rôle aussi iconique puisque Chantons sous la pluie, c'est une des plus connues, voire la plus connue des comédies musicales hollywoodiennes de l'âge d'or. Donc tu reprends le rôle qui est joué dans le film par Debbie Reynolds.
Yes.
Donc ça, c'est quelque chose que tu joues jusqu'à quand ? Jusqu'à...
Alors ça, c'est de la tournée, principalement.
Ouais. Là, vous êtes à l'Opéra de Reims.
Là, on est à l'Opéra de Reims 23, 24 et 25 avril.
Okay.
Ensuite, l'Opéra de Vichy, début août. Et puis après, on va faire Montpellier, Montauban, enfin voilà, un petit peu sur toute la fin d'année. Et ça court, il y a des dates qui courent jusqu'à 2024 avec potentiellement une reprise à Paris. Oui, c'est, on ne sait pas encore, mais voilà.
Et ensuite, ou en parallèle, est-ce qu'il y a des projets dont tu peux parler qui ne tombent pas sous le coup de la confidentialité des choses
Il y en a un, oui, qui vient de tomber, de s'officialiser. Donc c'est une pièce qui s'appelle Titanic, qui a été créée par la Compagnie des Moutons Noirs. Qui est une pièce assez loufoque aussi. Donc, mais comme je te disais, donc ça part du film Titanic, qu'on connaît, je pense, tous. Ouais. Voilà. C'est un peu le même concept que Spamalot, je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Okay. Voilà.
C'était la comédie musicale d'après Sacré Graal.
Exactement. Il me semble. Exactement. Okay. Voilà. Et donc, ça part dans des délires un petit peu du même genre, avec des exagérations. Et puis, toujours un fond, un fil de vérité humaine.
D'accord.
Très touchante.
Mais l'idée, c'est de garder Jacques et Rose et de leur faire faire des trucs un peu...
Ouais, sauf qu'ils ne s'appellent pas Jacques ni Rose, mais on embarque sur Titanic, il va y avoir l'iceberg, il va y avoir
donc
le naufrage.
Donc la fin reste la même, quoi qu'il arrive.
Désolée, j'ai spoilé, putain.
Mais je pense que tout le monde savait la fin de Titanic, hélas.
Oui, c'est vraiment la même trame, c'est les noms qui changent, et puis l'expérience sur le bateau qui est légèrement modifiée.
D'accord.
Voilà.
Et toi, tu joueras quel rôle ?
Et donc, moi, je jouerai un rôle qui s'appelle Titine, qui vient remplacer en quelque sorte le rôle de la baronne, un petit peu la nouvelle riche. Voilà, sauf que donc en fait, dans la pièce que je vais jouer, donc Titine est dans un cabaret à Paris. Voilà, c'est une petite chanteuse des rues en quelque sorte, voilà, une Titi parisienne, quoi. qui,
encore une histoire d'accent.
Exactement, ben oui, tu vois, on me fait danser, on me fait prendre des accents, toujours la même chose.
Ouais, Titi parisien, c'est, l'accent, il est sympa, tu vas pouvoir...
Ah ouais, je vais pouvoir m'éclater.
Comme Edith Piaf à l'époque, ou les chanteuses comme ça.
Ouais,
est-ce que tu as réécouté des vieux enregistrements?
Ah bah oui, oui, forcément, j'ai réécouté, ça c'est sûr.
Ça va être sympa à jouer.
ça va être super. Et donc, cette Titi tombe sous le charme d'un des, on va dire, de matelots, qui va être sur le Titanic, et donc elle va embarquer sur le Titanic avec dans l'espoir et dans le rêve d'arriver à New York ou à San Francisco pour faire une carrière dans le musical.
D'accord.
Voilà, et après, sur le bateau, je vais incarner donc à tour de rôle Titine et le rôle de la mère de Rose. Voilà, qui dans la pièce ne s'appelle pas Rose, s'appelle Liz.
Ok.
Voilà. Et
donc, tu joues plusieurs rôles.
Donc, deux rôles complètement différents, opposés, total. Donc, bonheur de comédienne. Génial. Et ça, c'est au Théâtre de la Renaissance du 3 juin au 3 septembre.
Fantastique. Et ça s'appellera Titanic également ?
Titanic.
Titanic ou Titanic musical ? Non,
juste la folle traversée, je crois.
Super. Et bien, on guettera le Théâtre de la Renaissance. Donc, à côté de... on en parlait avant l'émission.
La Porte Saint-Martin.
Ouais. Parce qu'il y a le Théâtre de la Porte Saint-Martin à côté. Et le Théâtre de la Renaissance, c'est adjacent. Très bien, c'est très riche, très belle actualité. Alors on arrive malheureusement bientôt au terme de notre émission. Une question que je pose traditionnellement à tous mes invités, à tous celles et ceux que je reçois. Est-ce que tu as une recommandation culturelle ou une œuvre qui te tient particulièrement à cœur que tu aimerais partager avec nos auditeurs et nos auditrices ?
Ah oui, il y en a beaucoup.
On en a déjà cité quelques-unes, hein, donc on réitère, hein, pour ceux qui n'ont pas vu My Fair Lady, voyez My Fair Lady, c'est super.
Oui, My Fair Lady.
Chantons sous la pluie aussi, bon bref, il y a plein de comédies musicales.
Des films cultes musicaux, absolument.
Qui créeront peut-être des vocations, comme
peut-être,
c'était le cas pour toi.
Peut-être, ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup. Peut-être là, en fait, je me suis plongée tout récemment. Donc, j'ai été voir une exposition. Je crois qu'elle est finie maintenant, mais peut-être qu'elle est ailleurs en France. Ça s'appelle Les Divas Orientales. Donc, j'ai été voir ça à l'Institut du Monde Arabe.
Ouais, elle est terminée à l'IMA, mais je ne sais pas si elle a été reprise
autre part. Il me semble qu'elle a été reprise autre part. Il faudrait checker. Mais...
je mettrai sur la page de l'émission.
Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, cette expo m'a fait un coup de choc à plein de niveaux, déjà en tant que femme, un coup de choc parce que c'était que des femmes représentées, à travers des époques qui ont été dures pour les femmes, mais ces femmes-là représentées ont marqué ces époques, malgré la guerre, malgré le patriarcat, malgré la politique, malgré beaucoup de choses. Et j'ai découvert des choses incroyables, qu'il y a eu du musical qui est né en fait bien avant, bien avant la France, bien avant les États-Unis, en Égypte, à une époque avec des femmes au caractère incroyable qui ont monté les premières productions de comédies musicales. Ouais. J'ai découvert
tout ça.
Parce
qu'elles étaient chanteuses et actrices.
Oui.
Les plus connues, c'est Dalida, qui est la plus connue parmi tous. Oum Kalsoum aussi. Mais
j'avais
eu l'occasion de faire l'expo
aussi.
C'est des noms que j'ai découverts aussi.
Ouais,
parce que
c'est
tout un pan qu'on ne connaît pas du tout.
Un pan qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, je me suis replongée là-dedans. Et puis, en plus, moi, il faut dire, ma mère est libanaise. Donc, j'ai aussi renoué un petit peu avec cette partie-là de mes origines. Et du coup, ça m'a donné des envies. Voilà, j'ai acheté le bouquin de l'expo. Et donc, je me suis plongée aussi. J'ai découvert cette auteure illustratrice qui s'appelle...
Zaina Abirached.
Non, qui s'appelle Ziadeh. Comment elle s'appelle ? Ben, son prénom, c'est... comment je peux avoir ce trou ? Lama Ziadeh.
Ok,
et donc là, j'en suis à son troisième bouquin, qui a sorti des... En fait, c'est des romans illustrés. Elle fait elle-même les illustrations et elle parle donc du Liban, de son enfance, de souvenirs de guerre, de souvenirs de ce pays, de souvenirs de cette culture, des voisins, de sa mère. Enfin, c'est absolument magnifique. C'est un vrai voyage dans toute cette culture-là, ce pays-là, avec une histoire qui me touche assez particulièrement pour le coup, puisque
Bien
c'est
sûr.
L'histoire de la moitié de ma famille.
Une histoire très riche.
Une histoire tellement riche. Voilà. Et donc, je recommande vraiment, pour ceux que ça intéresse, de se plonger dans
donc,
ces...
Donc, tu dis l'Amaziadé. Ouais. Tu connais le titre de ces ouvrages ?
Oh, ben, celui que je suis en train de finir, c'est « Aux nuits, aux mes yeux ».
OK.
Voilà, mais il y en a, je crois, 4 ou 5 qu'à la sortie qui sont vraiment, je trouve, des petits chefs-d'œuvre. C'est magnifique. Voilà, et sinon, dans un tout autre registre, mais pour rester dans le thème musical, j'ai vu la nouvelle adaptation de West Side Story par Steven Spielberg au cinéma récemment. C'est une bombe.
Est-ce que tu l'as vu en salle ?
Je l'ai vu en salle,
ouais,
mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais. C'est magnifique, il faut voir cette œuvre, c'est magnifique. En plus, il a repris la version officielle de naissance en fait, de West Side Story, parce que le film que nous, on connaît tous, ils avaient échangé des sens de scène, etc., qui ne sont pas dans le même ordre que la...
En termes de quoi ? De scénographie ou de chorégraphie, tu veux dire ?
Non, en termes de dramaturgie, en fait, d'écriture.
Ah, de chronologie même.
Oui, de chronologie d'accord, des scènes, ouais. Et donc, il est vraiment...
J'ai vu la première version il y a longtemps, ça m'avait
échappé. Voilà. Ouais. Oui, et il est vraiment parti de comment ça s'est monté à Broadway à la base. Il a vraiment repris ce canevas-là. Et puis, ils ont rajouté des scènes qui sont magnifiques. Les acteurs sont tous parfaits. C'est fou, c'est magnifique visuellement. C'est sublime, les lumières sont sublimes. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre.
C'est une très belle adaptation. C'est vrai que c'est... En plus, on parlait de rôle iconique dont il faut, qu'il faut se réapproprier et où c'est dur de passer après. Et la tâche était assez ardue, je pense. Mais bon, vu qu'il s'appelle Steven Spielberg, il connaît quand même son métier. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je trouve que, alors qu'il a peut-être plus de 70 ans maintenant, il y a des scènes qui sont dans la mise en scène d'une vitalité et d'une vigueur.
Ah ouais. C'est sublime.
Et vraiment, comment dire, les passages les plus iconiques, notamment la scène où il chante et danse America, c'est fantastique.
C'est dingue. Ah, moi, j'avais les larmes de joie, les larmes de tristesse, les larmes de tout. Je crois que je
peut-être que
tous
tu
les
pourras
états.
Passer les castings pour West Side Story.
Mais c'est en cours.
C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas, parce que dans West Side Story aussi, il y a beaucoup de beaux rôles féminins. Marina Pangos, merci beaucoup d'être venue passer cette heure avec nous pour nous parler de plein de choses en fait. Et voilà, donc j'espère que cette émission vous a plu, que vous avez découvert le monde merveilleux de la comédie musicale, que vous aurez envie de vous jeter sur tout ça.
Yes, merci à toi de m'avoir reçu, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.